Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Paul Nison, qui publie Les débuts de Van Gogh, les dessins de la période hollandaise, traduit de l'allemand par Dominique Vénard au cahier dessiné dans la collection Les Écrits. Toute la vie de cet homme de génie, marqué par une conscience aiguë de sa vocation et un engagement de tout son être, n'est finalement qu'un engagement désespéré pour faire face à la crise que traverse l'humanité et sortir de l'impasse dans laquelle lui-même se trouve. Il sent bien que le problème le dépasse, c'est le drame de toute une époque. Voilà pas mal de temps, Paul Nison, que vous n'êtes pas venu nous retrouver au studio du jour au lendemain. Je pensais à vous et je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être dans son atelier en train d'écrire un très très gros livre. Ou peut-être qu'il a décidé que c'était fini, il n'écrirait plus.
Pas vraiment. Pas vraiment, je prends des notes, j'écris. J'ai, de toute façon, j'ai quelque chose comme un cadavre de roman caché quelque part que j'avais commencé et que j'avais laissé tomber. C'était par des circonstances où j'étais. Je ne savais pas comment continuer. Mais je vais essayer bientôt de le reprendre. Pour le reste, je vais bientôt publier le dernier de mes journaux, ça sera le tome 5, et puis j'ai toujours des petites, j'ai pas mal de demandes d'un peu de partout, des gens, presque chaque semaine il y a quelque chose. Je dis ça pour que vous n'ayez pas pitié de moi, c'est pas que je sois éteint ou malade, non, je suis beaucoup plus lent qu'avant, c'est ça.
Mais est-ce que vous avez toujours autant d'entrain à écrire?
Écoutez, c'est quand même l'unique chose qui m'intéresse vraiment, même si c'est très dur, mais j'ai jamais, ou presque jamais, écrit d'une manière simple, légère, pas du tout. C'était toujours un combat. Bon, c'est ça. Mais là, je suis presque un peu gêné parce que ce livre que j'ai écrit, là, c'était ma thèse de doctorat que j'ai fait quand j'avais 25 ans, alors en tant que gamin. Et je n'avais pas du tout envie de jamais envisager de publier ça en France ou de le faire traduire.
Mais on en parlait souvent et on ne pouvait pas découvrir ce livre en France.
Non, non. Comment, qu'est-ce que vous entendez là, on parlait?
Le livre était souvent évoqué.
Ah oui, oui, mentionné peut-être, oui. Vous savez, maintenant, mon œuvre littéraire, narrative, est entièrement publiée depuis un certain temps et aussi traduite. Mais maintenant, se rappelle que je suis de formation historien de l'art. J'étais critique d'art avant de devenir vraiment romancier.
Vous avez été aussi assistant au musée historique de Berne,
oui,
jusqu'en 1959, c'est-à-dire immédiatement après avoir soutenu votre thèse.
Oui. Oui, mais cette thèse, elle était conçue beaucoup plus large. Je l'ai réduit à ce format-là parce que on m'avait offert, à l'époque, j'étais père de famille avec deux petits-enfants, on m'avait offert un boulot, un poste comme assistant à un musée que je pouvais pas renoncer, c'était vital. Et pour pouvoir commencer avec ce travail, il me fallait que je fasse mon examen de doctorat. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai rétréci la thèse.
Oui. Alors, vous avez expliqué dans un livre précédent intitulé Le ramassement de soi, qui a pour sous-titre Récits et réflexions, que pendant vos études d'histoire de l'art à Berne, puis à Munich, vous saviez déjà que jamais vous ne pratiqueriez l'histoire de l'art dans un esprit scientifique
non.
ou de recherche.
Non, ça c'était clair. Il faut dire, maintenant, quand je fouille, et je suis obligé de fouiller dans mes papiers, les premiers papiers, je suis étonné que j'étais sûr de devenir écrivain ou d'être écrivain, même si j'avais rien publié, j'avais pas de preuve de talent, mais j'étais sûr que j'étais écrivain et j'avais aucun autre intérêt. Ça c'était clair, surtout pas la recherche. Après, la critique, ça allait, parce que c'était quand même l'écriture. Et pour moi, c'était aussi... j'ai pratiqué la critique d'art jusqu'en 72. Et c'était aussi une sorte d'apprentissage de style, hein, pour
oui,
moi.
Ça, oui. Ça vous a appris un peu à écrire.
Oui.
Reste que d'entrée de jeu, vous avez rencontré celui qui allait être pour vous l'étincelle, qui allait donner le déclic, Van Gogh.
Ouais.
C'était à une grande exposition qui lui était consacrée à Berne. Et cette exposition de Berne a été véritablement pour vous un choc.
Oui, c'était un choc. Là, à l'époque, j'étais encore étudiant, mais en même temps, j'étais... à mi-temps assistant pour public relations, pour les relations publiques. Et c'était juste un gagne-pain, n'est-ce pas? Et j'avais bien sûr aussi affaire avec le catalogue de cette exposition de Van Gogh. Mais c'était un immense choc. Vraiment, c'était une confrontation initiatique pour moi. Premièrement, je dirais, c'était... La découverte que la réalité est une invitation à créer et qu'elle n'existe pas au-delà de la création artistique. Il n'y a pas de réalité. Et le deuxième message, c'était le dévouement jusqu'à un excès mortel pour ce métier. Un dévouement que j'ai aussi découvert en même temps avec l'autre qui m'avait formé au début, c'était Robert Walser. Un dévouement entier que j'ai suivi toute ma vie, moi aussi. Et dans ce sens, je suis un type, un ancien, un individu du temps passé. Ce dévouement ou ce sérieux ou ce combat, ça se trouve pratiquement plus, je pense. Mmh. Je me rends compte que je suis, dans ce sens, vraiment... un exemplaire, moi-même, de musée.
C'est dans le sérieux, donc, que se retrouvent des gens pourtant assez éloignés, comme Van Gogh et Robert Walser.
Oui, absolument. Mais chez Robert Walser, il y a un aspect assez proche de celui de Van Gogh. Premièrement, le même dévouement. Chez les deux, ce qui les distingue de moi-même, ça exclut avoir une famille ou une femme ou une relation intime. L'unique partenaire, c'était leur art. Et peut-être aussi, de là, j'ai un, Et ça m'est resté durant toute ma vie. J'ai une immense admiration pour l'art. Bon, je veux dire, pas pour l'art figuratif ou quoi, pour l'art dans toutes ses expressions. En ce qui concerne Walser, c'était la découverte qu'on peut et qu'on devrait créer en tant qu'écrivain avec rien d'autre que les mots. On n'avait pas besoin de plot, parce que le plot, c'est déjà une trahison de la réalité qui est à créer. Vous savez, de Walser, quelqu'un avait dit, Walser avait découvert l'écriture sans contenu. Et ce que j'ai appris et admiré à part de ce dévouement, c'était le fait que l'écriture est une affaire de mots, de langue, on pourrait dire de style, mais ça c'est déjà trop loin. Premièrement, c'est une affaire de langue. Et moi aussi, j'avais une fureur de besoin d'écrire sans sujet, longtemps, très longtemps. Pour moi, j'avais toujours un problème avec la matière. Mais j'éprouvais une nécessité totale d'écrire, de m'exprimer. Et je pouvais écrire n'importe quoi. Je me mettais à ma machine d'écrire comme un pianiste à son piano et je commençais. Je commençais avec des exercices peut-être quelque part et puis après je me laissais traîner en improvisant et j'atterrissais sur une lancée aussi de narration ou un sujet. Je tombais, oui. Et alors, chez Walser, c'était qu'au début de l'écriture, il y a cette folie des mots. Et chez l'autre, on pourrait même dire que les deux étaient des exemples purs et nets de non-talent, des maladroits. Là aussi, j'ai compris... à beaucoup d'occasions que chez les grands artistes, au début, ce n'est pas le talent, mais plutôt un défaut. Et chez Van Gogh, c'est pas tant. C'était vraiment un type qui ne savait pas du tout dessiner. Il s'accrochait au crayon dans une situation de la vie où il était mortellement isolé, et un vaurien. Il voyait plus du tout quoi faire de son temps et une isolation maladive, aussi expulsé de la famille, tout ce que vous voulez, sans femme, sans amour, sans rien. Et là, il commençait à s'accrocher au crayon et à se confronter avec ce qu'on appelle la réalité. Mmh. Et après, un combat incroyablement sérieux et passionnel. Et puis, en fait, on pense qu'il mettait beaucoup de temps pour devenir, pour apprendre, pour gagner ses moyens d'expression. Mais ce n'est pas vrai, parce que l'œuvre entière, il l'a fait dans quelques années. Il l'a fait dans 6-8 ans. Il est mort très jeune, il est mort à l'âge de Christ, du Christ. Et il s'est, comme beaucoup d'artistes, ça passait par la folie, par l'internement, et puis après par le suicide. Mmh. Et il y a beaucoup d'artistes, martyrs, si on veut, hein, un peu en utiliser une langue... exagéré. Parmi les artistes, il y a beaucoup de victimes.
Un mélange, donc, chez Van Gogh comme chez Walser, et peut-être chez Paul Nizon, d'absence totale de technique artistique et en même temps une fureur, une grande fureur. Et c'est la fureur qui finit par l'emporter.
Oui, absolument. Absolument. Et vous savez, par exemple, on sait beaucoup de choses sur Van Gogh parce qu'il a délaissé une immense œuvre épistolaire, les lettres surtout à son frère Théo, où il parle d'une manière minutieuse de son travail, de son développement, de sa vision, de ses défaites, mais aussi de ses lectures. C'était un type, il passait pour un, presque à l'époque, il était considéré comme un peintre de dimanche, ou comme un fou. Il était fou, je suis sûr. Non, il n'était pas cliniquement fou, mais il était insupportable comme être, comme copain ou comme... oui, insupportable. Mais... alors, on a cette immense explication de soi-même, cette exégèse de tout. Tout est documenté dans ces lettres. Et moi, dans ma thèse aussi, j'ai fait... En première ligne, c'était une recherche sur le style, mais en s'appuyant sur la psychologie et l'idéologie comme tant qu'elles apparaissent dans ces lettres. Mmh. Et oui, c'était ces deux... Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, pour cette thèse-là, pour le style, je me suis rendu à Amsterdam. Il n'y avait pas encore le musée Van Gogh, mais dans le Stedelijk Musée, il y avait les dessins, immense nombre de dessins de Van Gogh. On me laissait dans ce dépôt, on me dit, voici les caisses, pratiquement servez-vous. Et moi, je les ai déballés, je les ai mis par terre, peut-être j'ai même passer avec mes chaussures là-dessus, je ne sais pas, non, je ne pense pas, mais quand même, j'aurais pu faire, et je n'étais jamais contrôlé. J'ai passé des heures et des heures là-dedans, et je prenais des notes vraiment descriptives et sur le style, le développement du style, et le soir, je m'en allais, et sans contrôle. Hein.
Donc vous manipuliez les dessins sans gants blancs,
oui,
et sans aucune protection.
Oui. C'était assez passionnant. C'était assez passionnant. J'étais très, très jeune. Je me suis enfermé à... Et c'était après la guerre. C'était les années 50, début des années 50. Et je me rappelle, une fois, j'étais dans un café, je parlais avec quelqu'un, l'allemand, et les gens à côté se levaient pour faire le salut hitlérien. En écoutant l'allemand. Alors, moi, en Suisse, je n'avais pas grand chose à faire avec Hitler, mais eux, ils ne savaient pas. Bon. Et c'était un séjour vraiment passionnant. J'aimais beaucoup cette ville, avec les canaux, avec aussi cette architecture. Et puis, j'avais un travail sérieux à faire, tous les jours. Je ne sais pas combien de temps je suis resté, peut-être 2 mois.
Alors, de Van Gogh, vous dites, Paul Nizon, qu'il ne faisait pas seulement de l'art, il se lançait aussi dans une vraie croisade. Une vraie croisade afin de ramener à la vie un monde qui, à ses yeux et dans son esprit, était mort.
Comment encore, je n'ai pas compris là. Qu'est-ce qui était mort?
Le monde.
Ah. Oui. Oui. Non, c'était assez compliqué chez lui parce qu'il venait pas seulement d'une famille, mais d'une dynastie de pasteurs. Et l'éducation était ultra religieuse. Et. Il voulait toujours sauver le monde, sauver les êtres humains et surtout aider à l'être proche. Et on le repoussait partout, il ne trouvait pas de fonction dans la société. Et il était assez cultivé, il parlait plusieurs langues, il parlait et lisait l'anglais, l'allemand, le français, à part de... Et puis après, il a appris le grec et le latin pour devenir pasteur, mais ça ne marchait pas, il ne pouvait pas... On ne supportait pas ce fou. Ce type exalté. Oui, c'était cette obsession. Et il faut dire... Alors, au début, c'était... Il voyait un salut dans l'idée de devenir pasteur ou missionnaire. Mais après, il s'est complètement retourné de l'Église. Il détestait l'Église. Et l'unique... mais il restait admirativement attaché au personnage du Christ. Et il disait, il voudrait... créer des êtres humains avec ce nimbe des saints là-dessus. Il voulait, jusqu'à la fin, il voulait aider une société moribonde avec son art. Ça, c'est ce besoin d'une utilité sociale le remplissait jusqu'à ses fins. Il n'était pas du tout... Il n'a jamais été un mondain. Dans ces deux ans, après la période néerlandaise où il a passé à Paris, où il a découvert la lumière, le coloris impressionniste et la technique impressionniste qu'il a tout de suite dépassé, ces deux années à Paris, puis après deux années à Arles et un an à Saint-Rémy, interné en partie, et puis après le retour vers le Nord, le dernier séjour à Auvers-sur-Oise. C'était une carrière tellement intense et passionnante pour moi, et aussi en tant qu'exemple, que je pouvais juste... Vous voyez, moi j'avais... Je ne me suis pas fait des idées d'une carrière littéraire, mais tout de suite, par ces exemples de Van Gogh et de Walser, j'ai considéré que cette carrière sera un combat, un dévouement, plein de rage. Alors, j'ai jamais, par exemple, de là, j'ai jamais... flirter en moi-même avec le succès en tant qu'argent. Parce que les deux, les exemples, avaient gagné rien de rien. Et c'était quand même parmi les plus grands qui existaient dans leur domaine. Et je m'attendais vraiment à une vie très dure, très engagée, très épuisante. Mais aussi avec un délire de bonheur, parce que la création de la réalité, qui est en même temps une autocréation, parce que chez Van Gogh aussi on peut vivre et découvrir ça, comment à travers son art, il se crée lui-même. Mmh. Aujourd'hui c'est une banalité, une expression autocréation, c'est une banalité. À l'époque, pas du tout. Aussi, le terme de réalité avait... Vous voulez dire à l'époque le naturalisme, et c'était quelque chose qui était plus ou moins donné. Mais la réalité, dans un sens existentiel, était vraiment un devoir de l'artiste.
Il voulait pénétrer au cœur de la réalité.
Oui. Ça me remplissait, bien sûr, et ça me préfigurait peut-être. Mais moi, je n'étais pas comme être humain, je n'étais pas comme ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais aussi, j'étais beaucoup intéressé aux femmes et j'étais peut-être d'une vitalité complètement différente, aussi d'une curiosité. Mais dans ce sens, c'était peut-être, j'étais moins prévu comme une victime. Mais l'ultra-sérieux de ce métier m'était aussi inconditionnellement un caractère de moi.
Ce qui est curieux, c'est que 30 ans après votre thèse, en 1987...
Pas
30 ans. Si, 30 ans après votre thèse, en 1987, vous avez publié un récit. Qui est du reste, à mes yeux, l'un de vos plus beaux livres, Stolz, publié chez Actes Sud, qui a eu le prix France Culture du meilleur livre étranger en 1988, où était déjà évoquée cette recherche de Van Gogh à travers les dessins de la période hollandaise.
Oui, ça c'était un sujet... Non, c'était autobiographique dans ce sens que moi aussi, avant d'aller à Amsterdam voir les dessins et les originaux, je me suis, sur recommandation de mon beau-père d'alors, qui était pasteur luthérien, je me suis retiré dans la solitude d'une ferme dans la région du Spessart. Et avec des documents, avec des photos, avec les tomes de lettres de Van Gogh et tout ça. Et la confrontation, premièrement la solitude qui n'était pas supportable pour moi parce que je vivais avec une jeune femme et j'avais déjà un enfant à l'époque quand j'étais étudiant. Alors j'avais pas d'expérience avec cette solitude. Deuxièmement, cette solitude avec dans une ferme, en unique compagnie d'une famille de paysans et un forestier à côté avec un passé nazi. Et deuxièmement, la documentation de Van Gogh, ça c'est le fond autobiographique. Et là j'ai senti que, premièrement, j'ai senti que moi, en tant que jeune homme, je n'avais pas du tout cette passion de mon sujet que j'étudiais, de Van Gogh, que cette passion me manquait. C'était ça, une chose. Et l'autre chose était que dans cette solitude, j'ai découvert une tendance suicidaire en moi-même. Et je comprenais qu'on pouvait, si on n'avait pas cette passion, on pourrait se laisser mourir quelque part. Ça, c'était une autre découverte. Et moi, je me suis sauvé en allant à Amsterdam, me confrontant avec aux originaux. Et beaucoup plus tard, quand j'ai développé le roman Stolz, j'ai pris cette situation comme cadre de mon roman et je laisse mourir le jeune homme que j'étais, qui avait une ressemblance avec moi-même. Je le laisse mourir à l'âge de 25 ans, justement en manque de passion pour la vie. Il n'a pas assez de passion pour la vie. Et oui. Comme ça, alors, on peut dire comme ça, le sujet de Van Gogh est rentré aussi dans mon travail littéraire. Mmh.
Quand vous avez commencé à vous intéresser à Van Gogh, dans ses années 50, il n'était pas encore la star qu'il est devenu aujourd'hui.
Il n'était plus. Écoutez, il est devenu une star pratiquement un an après sa mort. Ça éclatait tout de suite sur un plan international, sinon mondial. Et après, il y avait plusieurs périodes. À l'époque où on a organisé cette exposition à Berne, il avait été de nouveau oublié. Et il était en train d'être redécouvert. Et ça, c'était, ça s'est produit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, bon, si on mesure ça avec l'argent des millions qu'on paye pour un Van Gogh, mais aussi ce que j'ai souvent pensé quand j'ai vu, quand je l'ai vu dans les expositions encadrées de Cézanne ou de Gauguin ou des gens comme ça, la lucidité, à côté de cette passion de la folie, il y a une lucidité de l'esprit incroyable dans l'œuvre de Van Gogh. Et là, je pense... Je parle bien sûr pas seulement des dessins, mais surtout de la peinture.
La peinture qu'on peut voir en ce moment au musée d'Orsay, dans l'exposition Van Gogh Artaud. Je ne sais pas si vous avez été la voir, Paul Nizan.
Ah oui, il a toujours intéressé des gens comme, comme Artaud. Il a intéressé pas mal de monde dans le domaine des arts et de la littérature. Jusqu'à présent. Mais vous savez, entre-temps, c'était les reproductions, c'était pratiquement les reproductions sur les murs des chambres de bonne. Vraiment, il n'y a pas seulement, c'était, il était une star, mais il était populaire. Alors, il réussissait à ceux qu'il avait envisagé dans ses rêves d'être utile, de consoler les âmes des pauvres, pas seulement des pauvres, mais aussi des pauvres, parce que tout le monde pouvait comprendre ce qu'il avait fait. Alors, quand même, dans ce sens, une réussite incroyable.
Les débuts de Van Gogh, les dessins de la période hollandaise, le livre de Paul Nizan est publié par les Cahiers dessinés. Du jour au lendemain, Philippe Palares, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Winston, bonsoir. Thank you.